Hoffmann, le Doge et la Dogaresse. Doge et Dogaresse, ainsi étaient mentionnés dans le catalogue des ouvrages de peinture que l'Académie des Beaux-Arts de Berlin exposa au mois de septembre 1816, un tableau du brave et habile C. Kolbe, membre de la dite Académie, ouvrage empreint d'un charme tellement surprenant qu'il était difficile de trouver place devant lui pour le voir à l'aise. Un doge magnifiquement vêtu s'avance sur une terrasse. La Dogaresse aussi, en riche toilette, est à ses côtés. Lui, vieillard à la barbe grise, sur son visage bruni et vivement coloré, des traits singulièrement contrastés peignent les uns la vigueur, l'autre la faiblesse. Ici la bonté même, et là l'orgueil et l'arrogance. Elle, jeune femme, pleine d'une tristesse langoureuse dans sa tenue, dans son regard d'où s'échappe un désir rêveur. Derrière eux, une femme âgée et un serviteur tenant un parasol ouvert. Sur le côté, près de la balustrade, un jeune homme souffle dans une trompe modelée en coquillage, et sur la mer, devant la terrasse, est une gondole somptueusement décorée, ornée d'un pavillon aux armes de Venise et occupée par deux rameurs. Dans le fond, s'étend la mer couverte de mille voiles, et l'on voit les tours et les palais de la splendide Venise qui surgissent des flots. À gauche, on distingue San Marco, à droite et plus rapproché, San Giorgio Maggiore. Et sur le cadre doré du tableau sont gravés ces mots « Ah, senza mare, andare sul mare, col sposo del mare non può consolare. Suivre sur la mer l'époux de la mer, las, ne peut charmer cœur privé d'aimer. » Devant ce tableau, il s'éleva un jour une discussion frivole pour savoir si le peintre avait voulu représenter des personnages historiques ou bien s'il avait songé à faire de l'art que pour l'art, c'est-à-dire à figurer, comme l'indiquaient suffisamment les vers ci-dessus, la situation d'un homme âgé et presque éteint, qui, malgré toutes les satisfactions et les splendeurs imaginables, ne peut apaiser l'inquiétude et les désirs d'un cœur avide. Las de bavarder, les interlocuteurs quittèrent la place l'un après l'autre, et il ne resta plus devant le tableau que deux zélés amateurs du noble art de la peinture. « Mais je ne sais pas, dit l'un, comment l'on peut ainsi corrompre sa propre jouissance avec ses éternels commentaires. Sans m'embarrasser de deviner le trait positif de la vie de ce doge qu'a reproduit l'artiste, cet éclat de richesse et de puissance qui domine l'ensemble me saisit d'une émotion vague et indéfinissable. Vois ce pavillon qui porte le lion ailé, comme il se déploie dans l'air, emblème vivant de l'empire du monde. Oh, superbe Venise ! Il se mit à répéter l'énigme de Turandot sur le lion adriatique. Dinimi, qual sia, quel terrible fera, etc. À peine eut-il fini qu'une voix sonore fit entendre la solution du calfat. Tu quadrupede fera, etc. À l'insu des deux amis, un homme d'un aspect noble et imposant s'était approché d'eux, un manteau gris pittoresquement jeté sur l'épaule, et contemplant le tableau avec des yeux étincelants. On lia la conversation, et l'étranger dit d'un ton presque solennel. « Oui, c'est un mystérieux phénomène, en effet. Tel artiste rêve un tableau dont les figures, d'abord insaisissables comme des vapeurs flottant dans l'espace, semblent n'adopter une forme, un caractère qu'au gré de son esprit, et n'avoir de patrie que dans son imagination. Et puis il arrive que ce tableau réalisé se liant soudain au passé et même à l'avenir, est l'image exacte d'un fait accompli ou qui se produira plus tard. Peut-être Kolbe lui-même ignorait-il que les personnages qu'il a peints sur cette toile ne sont autres que le doge Marino Falieri et son épouse Annunziata. L'étranger se tut, mais les deux amis le pressèrent de leur donner l'éclaircissement de cette énigme, ainsi qu'il avait fourni l'explication de celle du lion adriatique. Il dit alors, oh, si vous avez de la patience, mes chers messieurs, je vais sur le champ avec l'histoire de Falieri, vous donner la clé de ce tableau. Mais avez-vous beaucoup de patience? Je serai fort prolixe, car je n'ai pas parlé autrement de choses qui sont aussi vivantes devant mes yeux que si j'en avais été moi-même témoin. C'est d'ailleurs, pour ainsi dire, le cas en cette circonstance. Car tout historien, et je vais l'être en ce moment, c'est en vérité un spectre qui raconterait les événements passés. Les deux amis entrèrent avec l'étranger dans une chambre écartée, où, sans autre préambule, il commença de la manière suivante. C'était il y a bien longtemps, et si je ne me trompe, dans le mois d'août de l'année 1354, à l'époque où le vaillant général génois Paganino Doria, après avoir rudement battu les Vénitiens, venaient de prendre d'assaut leur ville de Palenzo. Dans le golfe, en vue de Venise, ces galères bien armées croisaient alors en tous sens comme des bêtes de proie affamées qui, dans leur avide transport, vont et viennent épiant de quel côté la proie est plus facile à saisir, et un effroi mortel se répandit à Venise parmi le peuple et les patriciens. Toute la population mâle, tout homme à qui il restait l'usage de ses bras, se munit d'une arme ou d'un aviron. On rassembla les troupes dans le port de San Nicolo. Des navires, des arbres furent coulés à fond et des chaînes doubles fendues afin d'empêcher l'abord de l'ennemi. Et pendant qu'ici résonnait le fracas des armes entassées et le sourd retentissement des blocs massifs qu'on amoncelait sous les vagues jaillissantes, on voyait sur le Rialto les agents de la seigneurie, essuyant la sueur froide de leur front, le visage pâle et consterné, s'épuisaient à souffrir, offrir intérêt sur intérêt, pour obtenir de l'argent comptant, car c'était encore ce qui manquait à la République menacée. Bien plus, il était écrit dans les décrets impénétrables de la volonté éternelle, que dans ce moment même d'anxiété et d'angoisse, le troupeau en détresse serait privé de son fidèle pasteur. Le doge Andrea Latantolo mourut accablé du poids des malheurs publics, lui que le peuple appelait son cher petit comte, il caro contino, à cause de son caractère constamment bon et aimable, et parce qu'il ne traversait jamais la place Saint-Marc sans avoir au service de quiconque avait besoin d'argent ou de bons conseils, des consolations à la bouche pour l'un et pour l'autre, des sequins dans la poche. Or, comme d'après l'ordre naturel des choses, tel coup qui serait à peine sensible dans les circonstances ordinaires frappe d'une affliction doublement douloureuse ce cas découragé et l'infortune, le peuple parut tout à fait dans le délire du chagrin et du désespoir quand les cloches de Saint-Marc annoncèrent ce décès par des tintements sourds et lugubres. Leur appui, leur dernière ressource était perdue. Il ne restait qu'à courber la tête sous le joug génois. Telles étaient les lamentations des Vénitiens. Et pourtant la mort de Dandolo ne devait pas, à la rigueur, paraître aussi préjudiciable sous le rapport des opérations militaires de première obligation en ce moment. Car le petit comte affectionnait surtout la paix et la tranquillité. Il préférait le merveilleux spectacle des observations astronomiques aux arides travaux de la politique, et s'entendait mieux à régler l'ordre d'une procession à la sainte fête de Pâques qu'à diriger une armée. Il s'agissait donc d'élire un doge qui, doué à la fois des qualités solides d'un habile administrateur et de celles d'un valeureux général, pût sauver la République, ébranlée jusque dans ses fondements, de l'atteinte menaçante d'un ennemi de jour en jour plus entreprenant. Les sénateurs s'assemblèrent, mais ne s'offrirent que des visages soucieux, des regards mornes, des têtes penchées que leurs mains avaient peine à soutenir. Où trouver un homme qui fût capable, en ses conjectures, de raffermir le gouvernail ébranlé et de le diriger d'une main sûre? Le plus âgé des membres du conseil, nommé Marino Bodoeri, éleva enfin la voix. Ce n'est pas ici, ni hors de cette enceinte, ni parmi nous que vous le trouverez, dit-il. Mais que vos regards tournés vers Avignon s'arrête Murano Falieri, que nous y avons envoyé pour féliciter le pape Innocent sur son avènement. Il peut, lui, s'employer aujourd'hui plus utilement pour nous. Il peut, lui, s'il est nommé d'ange, réparer tous nos malheurs. On objectera peut-être que Marino Falieri a déjà 80 ans, que l'âge a blanchi sa barbe et ses cheveux à l'instar de la neige. Enfin, oui, ce sont des propos de calomniateur, qu'il faut attribuer son air d'hilarité, le feu de son regard et la rougeur qui colore ses traits, plutôt au vin de Chypre qu'à sa vigueur naturelle. Mais n'attachez à cela aucune valeur. Souvenez-vous seulement de quel brillant courage Marino Falieri a fait preuve comme preuve éditeur de Noire Flotte sur la mer Noire. Considérez quels éminents sans service avaient pu décider le procurateur de Saint-Marc à donner en récompense à Falieri le riche comté de Valdemarino. Ce fut ainsi que Bodoeri fit valoir les mérites de Falieri en prévenant adroitement toutes les objections jusqu'à ce qu'enfin toutes les voix se réunirent pour son élection. Quelques-uns, il est vrai, levèrent encore de vives réclamations sur le caractère emporté et bouillant de Falieri, sur sa soif de domination jalouse, sur son opiniâtreté inflexible. Mais on leur répondait « Ben c'est précisément parce que la vieillesse a corrigé ses défauts du jeune Falieri que notre choix se repose sur le vieillard. » Et ce qui mit un dernier terme à toutes les critiques, ce fut la joie inouïe, exagérée et folle que manifesta le peuple en apprenant l'élection du nouveau doge. Ne sait-on pas qu'en pareilles circonstances, dans un tel conflit d'embarras et d'appréhension, une résolution quelconque, pourvu qu'elle soit décisive, apparaît comme une inspiration du ciel. Il arriva donc que le bon petit comte, malgré sa bonté et sa douceur, fut complètement oublié et que chacun allait disant « Par Saint-Marc, ce Marino aurait dû depuis longtemps être pris pour doge et l'orgueilleux Doria ne serait pas sur notre dos. » Des soldats invalides levaient avec peine leurs bras mutilés et s'écriaient « C'est Falieri qui a battu Montpensier. C'est ce vaillant capitaine qui promenait sur les mers son pavillon victorieux. » Et dans chaque groupe de peuple, on se racontait les hauts faits du vieux Falieri, et les airs retentissaient de cris d'allégresse, comme si Doria eût été déjà battu. Sur ces entrefaites, Niccolo Pisani, qui au lieu de se porter avec la flotte à la rencontre de Doria, avait, Dieu sait dans quel but, fait voile tranquillement pour les Sardaignes, reparut enfin. Doria abandonna le golfe, et ce résultat, dû au retour de la flotte de Pisani, fut attribué à l'influence redoutée du nom de Marino Falieri. Le peuple et les patriciens se livrèrent alors aux démonstrations d'une joie extravagante, motivée sur la bienheureuse élection, et l'on résolut, pour la signaler d'une manière extraordinaire, de recevoir le nouveau doge comme un envoyé du ciel, dont la présence équivalait à l'honneur, à la victoire et à l'apogée de toutes les félicités. 12 nobles, chacun avec une suite nombreuse et brillante, furent députés par la seigneurie jusqu'à Vérone, où Falieri, aussitôt après son arrivée, fut officiellement investi par les envoyés de la République du titre de chef de l'État. 15 barques richement décorées, armées par le podestat de Chioggia et commandées par son propre fils, Taddeo Giustiniani, allèrent prendre à Chioggia, le doge et sa suite. De là, il vogua, pareil au plus puissant monarque le jour d'une victoire, et au milieu d'un cortège triomphal vers Saint-Clément, où l'attendait le Bucentaure. Au même moment où Marino Falieri mettait le pied sur le Bucentaure, et c'était le 3 octobre au soir, à l'heure du coucher du soleil, un pauvre diable était étendu sur le dur pavé de marbre devant les colonnes de la douane. Quelques lambeaux de toile rayée, dont la couleur était devenue méconnaissable, et qui paraissaient avoir appartenu jadis à un vêtement de marinier, tel qu'emportaient les portefaix et les rameurs de la classe la plus infime, voilait à peine son corps décharné. Au lieu de la chemise, chaque lacune montrait à nu la peau du malheureux. Mais elle était si blanche, si délicate, que le plus noble gentilhomme aurait pu en tirer honneur et vanité. Sa maigreur ne faisait que mieux ressortir les proportions parfaites de ses membres, et à contempler son front ombragé de cheveux châtain clair et bouclés malgré leur désordre, son nez aquilin, sa bouche régulière et ses yeux bleus creusés par les soucis et la misère, on restait convaincu que l'étranger, âgé de 20 ans au plus, était d'une naissance distinguée et devait à la rigueur du sort de se voir relégué dans l'allée des plus bas rangs de peuple. Comme nous venons de le dire, ce jeune homme était couché devant les colonnes de la douane, immobile, la tête appuyée sur son bras droit, son regard fixe et morne dirigé sur la mer. On eût pu croire que son âme s'était exhalée et que la lutte contre la mort l'avait changé en statue, s'il n'eût soupiré de temps en temps comme oppressé d'une douleur indicible. C'était peut-être un effet de la souffrance de son bras gauche qui était étendu sur les dalles entourées de lambeaux ensanglantés, indice d'une blessure grave. Tout bruit de manœuvre avait cessé, les ouvriers avaient suspendu leurs travaux. Venise entière voguait dans des milliers de barques et de gondoles au-devant de Falieri. Le malheureux jeune homme restait avec sa douleur aiguë dans un triste abandon. Mais au moment où, laissant tomber sa tête appesantie sur le pavé, il paraissait prêt de s'évanouir, une voix cassée appela d'un ton plaintif à plusieurs reprises « Antonio, mon cher Antonio !» Antonio souleva enfin péniblement la moitié de son corps et tournant la tête du côté de la douane d'où la voix semblait venir, il dit d'une voix éteinte et à peine intelligible « Qui m'appelle ?» Qui vient de charger de se jeter à la mer mon cadavre, car bientôt je vais expirer ici. » Une petite femme, vieille comme les pierres, s'appuyant sur un bâton, s'approcha alors du jeune blessé en toussant et haletante, et s'accroupissant auprès de lui, elle s'écria en ricanant d'un air diabolique : Enfant insensé, mais tu veux mourir ici ? Tu parles de mourir quand un avenir d'or s'ouvre devant toi ? Regarde là-bas à l'horizon, regarde ces feux étincelants, ce sont des sequins pour toi. Mais il faut que tu manges, murmura la vieille, que tu manges et que tu boives, car c'est la faim seule qui t'a fait tomber là, sur ce froid pavé. Le bras est guéri, mais te voilà guéri. Antonio reconnut dans la petite vieille une mendiante singulière, accoutumée à demander l'aumône aux fidèles sur les marches de l'église des franciscains, et à qui lui-même avait jeté maintes fois un quattrino gagné à la sueur de son front, et qui n'était guère superflu dans sa poche, mais cédant malgré lui à une impulsion secrète et indéfinissable. Laisse-moi en paix, dit-il, vieille folle. « Oui, oui, sans doute, c'est la faim plutôt que ma blessure qui m'a fait défaillir et m'a mis dans ce pitoyable état. Depuis 3 jours, je n'ai pas gagné un quattrino. Vous voulez aller au couvent, là-bas, et tâcher d'attraper une cuillerée de la soupe de l'hospice ? Mais tous les camarades sont partis, pas un qui m'ait parlé, prié par pitié sur sa barque. Alors, je me suis donc abattu ici, et probablement, pour jamais me relever. » Hi, 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 ricana la vieille, mais pourquoi se désespérer sans retour? Pourquoi se décourager si vite? Tu as faim, tu as soif, ben j'ai remède à cela. Voici de beaux petits poissons secs que j'ai achetés aujourd'hui même à la Secca. Voici de la limonade. Voici un joli petit pain blanc. Mange, mon enfant, mange et bois. Mon fils chéri, nous examinerons ensuite la blessure de ton bras. La vieille, en effet, tout en parlant ainsi, avait tiré du sac qui lui pendait derrière le dos comme un capuchon et qui dépassait de beaucoup sa tête inclinée par l'âge, des poissons, du pain et de la limonade. Antonio eut à peine humecté ses lèvres brûlantes de la fraîche boisson que sa faim se réveilla avec une nouvelle violence et il dévora avidement le pain et les poissons. Cependant, la vieille était occupée à dérouler les chiffons appliqués au bras malade et elle le trouva en effet grièvement meurtri, mais la plaie était déjà à demi cicatrisée. Après y avoir étendu en l'échauffant de son haleine de l'onguent qu'elle prit dans une petite boîte, elle demanda « Mais qui donc t'a frappé si rudement, mon pauvre garçon ?» Antonio, complètement remis et ranimé d'une nouvelle vigueur, s'était levé tout debout. Et il s'écria, les yeux flamboyants et le poing droit levé « Ah, mais c'est cet infâme Niccolo qui a voulu m'assommer, parce qu'il envie chaque misérable quattrino que me jette une main bienveillante. » Tu sais, la vieille, que je gagnais péniblement ma vie en aidant à porter les ballots des navires et des barques au magasin des Allemands, dans le Fontego. Tu connais bien cette maison. Mais Antonio n'eut pas plutôt prononcé ce nom de Fontego que la vieille se mit à éclater de son rire déplaisant et à marmotter coup sur coup. Fontego, Fontego, Fontego. Laisse-la ton rire stupide, vieille, si tu veux que je raconte, s'écria Antonio avec emportement. La vieille se tut soudain et Antonio continua. J'avais récolté plusieurs quattrini, je m'étais acheté une veste neuve, je faisais tout à fait bonne mine et je pris le métier de gondolier. Et comme j'étais toujours de belle humeur, travaillant bravement et sachant par cœur maintes jolies chansons, je gagnais, ou par-ci par-là, quelques quattrini de plus que les autres. Mais les camarades en furent jaloux, ils me desservirent auprès du patron. Je fus chassé, et partout où je me présentais, et sur mon passage, ils me criaient « Chien allemand, maudit hérétique !» Bon bref, il y a 3 jours, étant occupé près de Saint-Sébastien à tirer une barque sur la grève, je fus assailli à coups de pierre et de bateau. Alors je défendis ma peau vaillamment, mais le traître de Niccolo m'assena un coup d'aviron qui me rasa la tête et m'abîma le blanc en me terrassant. Mais voici que tu m'as remis en bon état, la vieille. Je sors d'effet que ton engon me procure un soulagement surprenant. Vois donc comme je me sers déjà librement de mon bras. Oh, mais je vais recommencer à ramer vigoureusement. Antonio se tenait droit et agitait vivement en tous sens le bras blessé, quand la vieille, ricanant de plus belle et sautillant d'une manière grotesque, s'écria « Cher enfant, mon cher enfant, rame avec vigueur !» le voilà qui vient, l'or darde des rayons enflammés, rame avec vigueur, mais une seule fois encore, une fois seulement !» Tu ne rameras plus après. » Antonio ne prêta aucune attention aux paroles de la vieille, car le plus magnifique spectacle venait de se dérouler devant lui. De Saint-Clément, du Bucentaure, sous son pavillon portant l'insigne du lion adriatique, s'avançait un coup bruyant d'aviron tel qu'un signe doré à l'aide d'une impulsion puissante. Entouré de barques et de gondoles par milliers, il semblait, avec sa proue royale et altière, commander à une armée joyeuse qui serait sortie du sein de la mer avec son chef superbe. Le soleil couchant projetait sur la mer et sur Venise des rayons de feu figurant un vaste embrasement. Mais tandis qu'Antonio, oubliant tous ses soucis, était absorbé par ce ravissant aspect, l'horizon devenait de plus en plus rouge. Un sourd murmure bruissait dans l'air, et des profondeurs des eaux un écho terrible semblait y répondre. La tempête arriva sur des nuages sombres, et tout fut enveloppé d'une épaisse obscurité, tandis que les vagues bouillonnaient, s'élevaient et tombaient pour remonter plus haut, menaçant avec des sifflements aigus de tout engloutir sous leur masse couronnée d'écume. Les barques et les gondoles étaient ballottées sur la mer comme des plumes éparses, Et le Bucentaure, impropre à lutter contre la tempête avec son fond plat, était balancé au gré des vagues. En place des joyeuses fanfares, des trompettes et des clairons, on entendait des cris d'angoisse qui perçaient à travers le fracas de la tempête. Antonio contemplait ce tableau d'un regard fixe quand un bruit de chaîne résonna tout près de lui. Il baissa les yeux. Un petit canot enchaîné au mur du quai était secoué par les flots. Soudain, une pensée lumineuse traversa son esprit. Il saute dans le canot, le démarre, saisit l'aviron qui s'y trouve et prend hardiment sa course en pleine mer droit sur le Bucentaure. À mesure qu'il approchait, il distinguait mieux les appels de secours qui partaient du bâtiment. « Arrive, arrive, sauvez le doge, sauvez le doge !» On sait que les petits canots de pêcheurs sont plus sûrs et plus faciles à gouverner dans le golfe en temps d'orage que les barques plus grandes. Aussi en arrivait-il de toutes parts pour sauver les jours précieux du digne Marino Falieri. Mais la Providence n'accorde jamais qu'à un seul d'entre mille la réussite d'une tentative audacieuse en frappant de stérilité tous les autres efforts. Et cette fois, c'était au pauvre Antonio qu'il était réservé de tirer du péril le nouveau doge, et lui seul parvint à aborder avec son petit canot le Bucentaure. Le vieux Marino Falieri, habitué à ces risques de mer, sauta résolument et sans la moindre hésitation du magnifique mais perfide Bucentaure dans l'humble canot du pauvre Antonio, qui, glissant sur l'onde écumeuse comme un agile dauphin, le transporta en peu de minutes à la place Saint-Marc. Le vieillard, les vêtements trempés et la barbe encore dégoûtante d'eau de mer, fut conduit dans l'église où les patriciens interdits achevèrent les cérémonies de sa réception. Le peuple, non moins affecté que la noblesse des accidents qui avaient sillonné cette arrivée, et il n'oubliait pas d'y faire figurer cette circonstance que, dans le désordre et la précipitation du moment, on avait fait passer le doge par mégarde entre les deux colonnes de la place, lieu consacré aux exécutions criminelles, le peuple fit trêve à sa joie et ce jour inauguré par l'allégresse se termina dans la consternation. Personne ne paraissait penser au libérateur du doge, et Antonio n'y songeait pas lui-même. Épuisé de fatigue et presque privé de connaissance par la douleur que lui causait sa blessure ouverte, il était étendu sous les arcades du palais de doge. Sa surprise fut d'autant plus grande quand, à la chute du jour, un garde ducal le prit par les épaules en lui disant « Viens, mon bon ami !» et le poussa dans les salles du palais jusqu'à la chambre du doge. Le vieillard s'avança à sa rencontre avec bienveillance et lui montrant deux sacs posés sur la table. « Tu t'es bravement conduit, mon fils, » dit-il. « Tiens, prends ces 3 000 sequins. Si c'est trop pour peu, ben demande-en davantage, mais fais-moi la grâce de ne plus jamais reparaître devant moi. » À ces derniers mots, de ses yeux jaillirent deux éclairs et son nez se colora d'une plus vive rougeur. Antonio ne concevait rien à l'irritation du vieillard, aussi ne s'en éput-il guère. Mais il chargea avec effort sur ses épaules les deux sacs qu'il croyait avoir bien légitimement gagnés. Revêtu des brillants insignes de sa nouvelle dignité, le vieux Falieri, le lendemain matin, regardait des fenêtres cintrées du palais le peuple gaiement occupé à des exercices guerriers. Bodoeri, lié avec lui dès l'enfance d'une amitié constante, entra dans la chambre, et comme le doge, absorbé par ses réflexions et l'idée de sa grandeur, ne paraissait pas s'apercevoir de sa présence, le sénateur s'écria en frappant des mains et en riant: « Eh, Falieri, quelle grave pensée! germent donc et se croisent dans ta tête depuis que le bonnet recourbé la couvre. Falieri, comme réveillé d'un rêve, alla au-devant du vieillard avec une affabilité simulée. Il sentait fort bien que c'était à Baudoëri qu'il devait son bonnet ducal, et les paroles de celui-ci semblaient le lui rappeler. Mais toute obligation pesait à son caractère orgueilleux et absolu, et ne voulant pourtant pas éconduire ainsi que le pauvre Antonio, le doyen des sénateurs, un ami éprouvé, il se contraignit pour lui adresser quelques mots de remerciement et s'empressa de parler immédiatement des mesures qu'il fallait opposer au progrès continu de l'ennemi. Oh, quant à cela, interrompit Baudoëri en souriant avec malice, quant à cela et à tout ce que l'État réclame de toi, nous y penserons mûrement dans quelques heures au sein du Grand Conseil. Non, je ne suis pas venu de si bon matin pour aviser avec toi au moyen de battre l'audacieux Doria, ou de mettre à la raison le Hongrois Louis, qui convoite de nouveau nos villes maritimes de la Dalmatie. Non, 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 Marino, c'est à toi seul que j'ai songé, et le motif de ma visite, tu ne le devinerais peut-être pas, eh bien c'est ton mariage. Oh, répliqua le doge, se levant brusquement et tournant le dos à Baudoëri, pour regarder la mer. Quelle idée de penser à cela! Nous sommes loin encore du jour de l'ascension. Mais alors, je l'espère, l'ennemi aura été vaincu. Le lion adriatique, le favori des flots, aura acquis par sa glorieuse victoire de nouvelles richesses et un degré de puissance de plus. Et la chaste fiancée trouvera l'époux digne d'elle. Ah, dit Baudoëri en interrompant avec impatience, tu parles de la solennité du jour de l'ascension et de la cérémonie de ton mariage avec la mer Adriatique, quand du haut du Bucentaure tu jetteras dans les vagues ton anneau d'or. Toi, Marino, familier de la mer, m'envies-tu donc pas d'autre fiancé que cet élément perfide, froid et inconstant? Imagines-tu parvenir à le dominer quand hier encore il se souleva contre toi d'une manière si menaçante? Mais comment te complairais-tu à reposer dans les bras d'une pareille épouse qui, par le plus fou des caprices, s'est mise à tempêter et à te chercher querelle au moment où, glissant sur le Bucentaure, tu caressais à peine son sein bleuâtre et glacé? Toutes les flammes d'un Vésuve ne suffiraient pas à réchauffer le cœur insensible de cette femme infidèle, qui, dans sa perpétuelle inconstance, en volant d'un hyménée à l'autre, reçoit les bagues nuptiales, non comme des gages d'amour, mais comme un tribut qu'elle arrache de vive force à ses humbles esclaves. Non, Marino, j'avais pensé, moi, que tu choisirais pour épouse la plus belle, la plus parfaite des filles de la terre. « Mais tu radotes, j'imagine, murmura Falieri, sans se détourner de la fenêtre. Tu radotes, mon vieux. Moi, un octogénaire épuisé de travail et de fatigue, qui n'ai jamais eu de femme, qui suis à peine capable d'aimer encore. » « Arrête, dit Baudoëri, ne te calomnie pas toi-même de la sorte. Quoi donc ? » L'hiver, quelque rude et glacial qu'il soit, n'étend-il pas enfin les bras avec amour vers la déité charmante qui vient à sa rencontre par portée par les vents tièdes de l'Occident? Et lorsqu'il la presse contre son sein engourdi, lorsqu'une douce chaleur pénètre en ses veines, que deviennent alors et les neiges et les frimas? Oh oui, tu as 80 ans, dis-tu, cela est vrai. Mais ne mesures-tu pas la vieillesse qu'au nombre des années? Ne portes-tu pas ta tête aussi droite? Où marches-tu d'un pas moins assuré qu'il y a 40 étés? Eh bien, peut-être sens-tu que ta vigueur a diminué, qu'il te faut porter une épée moins lourde, qu'une marche rapide t'affaiblit, que tu gravis avec peine les marches du palais ducal. Non, par le ciel, dit Falieri avec feu, interrompant son ami et quittant la fenêtre pour s'avancer vers lui. Non, par le ciel, non, je n'éprouve rien de tout cela. « Eh bien, reprit Baudoëri, Recueille donc dans ta vieillesse toutes les jouissances que t'offre encore la terre. Élève au rang des Dogarès celles que j'ai en vue pour toi, et les femmes de Venise seront forcées de le reconnaître pour la première de toutes en beauté et en vertu, comme les Vénitiens reconnaissent en toi leur chef en énergie, en sagesse et en courage. » Bonoëri commença alors à tracer un exquis portrait de femme, et il sut le colorer de touches si vives et si bien nuancées que les yeux du vieux Falieri lançaient des éclairs, que le sang vint colorer de plus en plus son visage, et qu'en avançant les lèvres, il fit claquer sa bouche comme s'il eût avalé coup sur coup du meilleur vin de Syracuse. « Oh ! » dit-il enfin en souriant, « et quelle est donc cette merveille de grâce dont tu parles ?»« Mon Dieu, je le parle, » dit Bonnery avec un fin sourire, « de personne autre que de ma chère petite nièce. » « Comment, ta nièce ?» interrompit Falieri. « Mais ne se marierait-elle pas pendant que j'étais podestat de Trévise avec Bertuccio de Nocticolo ?»« Tu penses, » répliqua Bonnery, « à ma nièce Francesca. Et c'est sa fille que j'ai voulu désigner. Tu sais que le valeureux Nemolo périt dans une expédition navale. Francesca, dans la douleur de son veuvage, s'enferma à Rome dans un couvent. Alors je fis élever la petite Annunciata à ma villa, près de Trévise, au sein d'une profonde solitude. « Et quoi ?» interrompit de nouveau Falieri avec humeur. « C'est la fille de ta nièce que tu me destines pour femme, que veux-tu dire ?»« Combien y a-t-il de temps que Nenolo s'est marié ?» « Annunciata doit être un enfant de 10 ans, tout au plus. Quand je fus nommé potestat de Trévise, on pensait pas encore à marier Nemolo, il y a de cela... »« 25 ans, répondit Bonoëri en riant. « Ah, mais comment peux-tu si mal calculer un temps si vite passé pour nous ?»« Annunciata est une fille de 19 ans, belle comme les astres, sage, modeste... » n'ayant aucune expérience de l'amour, car à peine a-t-elle vu un homme. Elle se sera attachée dans l'amour filial et avec un dévouement absolu. Ben « je veux la voir !» s'écria le doge, qui se représenta vivement le portrait que Bonoëri lui avait fait de la belle Annunciata. Son désir fut satisfait le même jour, car à peine était-il rentré de retour du grand conseil dans ses appartements, que l'adroit Bonoëri, sans doute intéressé sous plus d'un rapport à voir sa nièce siéger comme Dogarès aux côtés de Falieri, la lui amena secrètement. À l'aspect de cette fille angélique, le vieux Falieri, tout troublé de sa beauté merveilleuse, eut à peine la force, en balbutiant quelques mots inintelligibles, de faire la demande de sa main. Annunciata, probablement prévenue par Bonoëri, s'agenouilla en rougissant devant le vieillard couronné. Elle prit sa main, qu'elle pressa contre ses lèvres, et dit à voix basse, « Ô mon Seigneur, est-il vrai que vous daignez m'admettre à l'honneur de monter sur le trône ducal à vos côtés ? La profonde vénération de votre fidèle servante ne finira qu'avec ses jours. » Le vieux Falieri était hors de lui de joie et de bonheur. Quand Annunciata saisit sa main, il sentit un frémissement dans tous ses membres, puis il trembla de la tête aux pieds et fut obligé de s'asseoir au plus vite dans son grand fauteuil. C'était un évident démenti à la bonne opinion émise par Bonoëri sur la vigueur du vieillard octogénaire. Aussi celui-là ne put-il retenir le singulier sourire qui vint errer sur ses lèvres, mais l'innocente et naïve Annunciata ne s'aperçut de rien, et par bonheur que cette scène n'avait pas d'autre témoin. Soit que le vieux doge Falieri a l'idée de se montrer au peuple comme le nouvel époux d'une fille de 19 ans, sentit l'inconvenance de cette situation, soit que la crainte intérieure de donner prise à l'esprit satirique bien connu des Vénitiens le détermina à tenir secret le début de cette union critique, il résolut enfin, d'accord avec Bodoeri, que le mariage serait conclu dans le plus grand mystère, et que plusieurs jours après, la Dogarès serait présentée au peuple et à la seigneurie comme mariée à Falieri depuis longtemps et récemment arrivée de Trévise, lieu supposé de son séjour, durant l'ambassade de Falieri à Avignon. Tournons nos regards sur ce jeune homme élégamment vêtu et remarquable par sa beauté, qui se promène sur le Rialto, une bourse pleine de sequins à la main, et causant avec des Turcs, des Arméniens et des Grecs. Il détourne son front soucieux, s'arrête, reprend sa marche, puis revient sur ses pas et se fait enfin conduire en gondole à la place Saint-Marc, qu'il parcourt d'un pas lent et incertain, les bras croisés, les yeux tournés vers la terre, et sans remarquer un chuchotement, maintes petites toux affectées qui s'échappent des fenêtres sous lesquelles il passe, sans se douter que ce sont autant de signes d'amour qu'on lui adresse de ses balcons richement drapés. Qui reconnaîtrait dans ce personnage l'Antonio qui, peu de jours avant, gisait couvert de haillons, pauvre et misérable, sur le pavé de marbre de la douane? Mon fils chéri Antonio, bonjour, bonjour !» Ce fut ainsi que cria la vieille mendiante assise sur les marches de l'église Saint-Marc au moment où il passait devant elle sans la voir. S'étant retourné subitement et apercevant la vieille, il mit la main dans sa bourse et en tira une poignée de sequins qu'il se disposait à lui jeter. « Oh, laisse ton or tranquille, lui dit la vieille en ricanant. Que veux-tu que je fasse de ton or? Ne suis pas assez riche? Mais si tu veux me rendre service, fais-moi faire un nouveau capuchon, car celui que je porte ne peut plus me protéger contre le vent et la pluie. N'est-ce pas, mon fils chéri? Mais tiens-toi loin du Fontego, surtout du Fontego. » Antonio considérait attentivement le visage hâve et jauni de la vieille, dont les rides profondes se contractaient d'une manière bizarre et horrible. Quand, faisant claquer tout à coup ses mains sèches et osseuses, elle se reprit à marmotter d'une voix aigre et avec son ricanement insupportable. « Tiens-toi loin du Fontego !» Antonio s'écria. « Ah, ne cesseras-tu donc jamais tes folles piailleries, sorcière ?» Dès qu'il eut lâché ces mots, la vieille tomba comme frappée de la foudre en roulant du haut des degrés de marbre. Antonio courut à elle, la retint des deux mains et atténua la gravité de la chute. « Oh, mon fils !» dit alors la vieille en gémissant. « Quelle affreuse parole tu as prononcée ! « Oh, tue-moi plutôt que de répéter ce mot !»« Non, non, tu ne sais pas combien tu m'as affligé, moi qui te porte si tendrement dans mon cœur. Ah, si tu savais !» La vieille se tut subitement, cacha sa tête sous le lambeau de serge brune qui lui pendait sur les épaules en guise de mantelet et recommença à gémir comme pénétrée d'une vive douleur. Antonio éprouva intérieurement une émotion singulière. Il soutint la vieille et la conduisit jusque sous le portail de l'église Saint-Marc, où il la fit asseoir sur un banc de marbre. Puis, ayant débarrassé sa tête de l'ignoble lambeau de drap, « Vieille, lui dit-il, tu m'as fait du bien, oui, à proprement parler. C'est à toi que je dois tout mon bonheur. Car si tu ne m'avais pas assisté dans mon piteux état, je serais perdu depuis longtemps, au fond de la mer, je n'aurais pas sauvé le doge, et je n'aurais pas touché les sequins précieux. Mais quand même tu ne m'aurais pas procuré tout cela, je sens que je te devrais encore pour la vie une affection spéciale, en dépit de tes étranges folies et de cette maudite façon de ricaner qui mérite trop souvent. En effet, la vieille, quand j'étais à gagner péniblement ma vie en faisant le métier de portefaix, il me semblait toujours que j'étais dans l'obligation de travailler davantage pour pouvoir te donner quelques quattrini. « Oh, fils de mon cœur, mon Tonino chéri !» dit la vieille en levant les bras décharnés au ciel, de sorte que son bâton s'échappant alla rouler sur les dalles. « Oh, mon Tonino, je le sais bien que de toute manière tu dois m'être attaché de toute ton âme, car... Mais silence, silence, silence !» Antonio, voyant la vieille se courber péniblement pour relever son bâton, le ramassa et le lui rendit. La bonne femme alors, appuyant dessus son menton effilé et le regard fixé à terre, lui demanda d'une voix sourde et comprimée « Dis-moi, mon enfant, n'as-tu pas gardé aucun souvenir du passé, de ce que tu as été, de ce que tu faisais avant d'être réduit à gagner ton pain ici comme un pauvre diable ?» Antonio soupira profondément, puis il s'assit auprès de la vieille, et parla ainsi.